le prophète Amos, chapitre 4, à partir du verset 6. Amos 4, 6. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël.
Merci. Le titre de message ce soir, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Vous avez vu tout ce que Dieu a fait à Israël, là. Mais pourquoi a-t-il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Et pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière. Il faut se rappeler que Israël est descendu en Égypte où il a passé 400 ans. Oh, tous les 400 ans, ils n'étaient pas forcément des esclaves, mais probablement les 200 dernières années que oui. Un esclavage horrible. Et puis Dieu est venu dans la personne de Moïse pour les délivrer. Ils sont sortis. Ils ont vu des fléaux. Ils ont vu les miracles de Dieu, les uns après les autres. Ils se sont arrivés devant la mer Rouge. Moïse étant le bâton, la verge qu'il avait dans la main, et tout d'un coup les eaux se sont séparées. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils avaient tout ça dans la mémoire. L'autre côté, il y avait donc rien à manger, rien à boire. Dieu a pourvu pour qu'ils boivent. Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel et cela pendant 40 ans. Il les a dirigés par une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. Tout ça un souvenir. Dieu était avec eux. Dieu les a bénis. Après 40 ans, avec des miracles, les uns après les autres, ils ont traversé le Jourdain, ils ont vu descendre les murs de Jéricho, ils ont conquis ville après ville. Josué a fait arrêter le soleil pendant toute une journée pour qu'il puisse faire plus que cela. On dirait, une fois qu'ils ont conquis le pays, qui coulait avec le lait et le miel, qui n'allait jamais oublier Dieu. En plus de cela, Dieu leur a donné un temple, avec Salomon, un roi extraordinaire, qui était là pendant des années, où il n'y avait que la paix. Après cela, au lieu de se réjouir dans le Seigneur, au lieu de dire, voilà, maintenant Dieu nous a bénis, on va rester fidèles à Dieu. Il n'a fait que de bien à nos âmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers les idoles des autres nations qu'ils avaient conquises. Et au lieu d'être fidèles et rester avec le temple, ils ont déserté le temple. Ils ont mis une idole dans chaque rue de Jérusalem. Ils ont fait des libations, ils ont fait des offrandes à ces idoles-là. Ils ont prié à la reine du ciel. Ils ont fait toutes les abominations possibles. Et après quoi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des prophètes en disant « Repentez-vous ». Et au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes. Et là, les uns après les autres, ils les ont tués. jusqu'à ce que Dieu a dit maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Et des fléaux ont commencé à tomber sur Israël. Vous avez entendu la liste qui a été lue tout à l'heure. N'est-ce pas? Il y avait les sauterelles qui sont venues pour tout manger. Il y avait la famine. Il y avait la pluie. Et ça, c'est extraordinaire. La pluie sur une ville et pas une autre. Vous savez, quand la pluie ne tombe nulle part, on peut dire, voilà, c'est le hasard, c'est comme ça. Mais quand une ville reçoit la pluie, et 10 kilomètres plus tard, plus loin, il n'y a rien. Et 10 kilomètres d'à chaque côté, il n'y a rien. Et une ville prospère. On peut commencer à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler? Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose? Voilà, il y avait la famille, il y avait les sauterelles, il y avait donc les arbres qui ne portaient rien. Est-ce que Dieu ne nous parle pas par tout cela? Est-ce qu'il n'est pas temps de se convertir, de vraiment revenir à lui? Il a dit non. Chaque fois, il a dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous savez, cette ville-là, je trouve ça extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu bénit certaines personnes, et il semble qu'ils ont tout. Et puis une autre, il semble qu'ils n'ont rien. Il n'y a que des pépins, les malheurs qui arrivent. Il y avait une famille une fois que je connaissais à Toulouse. Ils avaient, oh, je crois, 6 enfants. Hein. Il n'y avait pas une semaine que l'un d'eux n'a pas cassé une jambe ou un bras. Vous vous rendez compte, chaque semaine, il y avait un bras ou une jambe cassée, vous savez, c'est dur à supporter, hein, chaque fois. Puis d'autres familles, il n'arrive rien. Cette ville qui a reçu la bénédiction, Dieu a parlé autant à cette ville que des autres qui n'ont pas reçu. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire par cela que quand le jugement est tombé, la ville qui a reçu la bénédiction a été jugée aussi sévèrement que ceux qui n'ont pas reçu. Et ceux aujourd'hui qui reçoivent des bénédictions matérielles, que tout leur arrive, ne croyez pas pour un instant que c'est un signe que Dieu est avec eux et qu'à la fin, ils vont échapper au jugement. Dieu dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Voilà le message pour tout le monde. Quand je pense à toutes ces choses qui sont arrivées à Israël, vous savez, ça m'amène aujourd'hui. Il y a un pays en particulier à quoi je pense, excusez-moi si je reviens aux États-Unis, mais c'est tellement flagrant. Ils ont été tellement bénis. Ils ont envoyé des missionnaires partout. Dieu les a bénis financièrement, de toutes les sortes. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà, ils se sont détournés de Dieu. Ils ont empêché qu'on enseigne la Bible aux écoles. Après cela, ils ont empêché qu'on prie à l'école. Après cela, ils ont empêché que même à la fin, quand on reçoit les diplômes, qu'on ne prie pas non plus. Ils demandent à tout moment qu'on enlève Christ de Noël, qu'on n'en parle pas, qu'on ne dit jamais Christ. Il y avait les défilés homosexuels en Amérique, à San Francisco, oui, ça on est habitué, mais vous savez, vous avez encore un autre défilé à Charlotte, North Carolina. Et ça veut dire quoi? Vous savez qu'ils ont passé presque devant la maison de Billy Graham pour montrer que ton Dieu Billy Graham, on s'en fiche de lui. Quand on voit toutes les choses avec le avortement, par des milliers qui meurent toutes les années, Dieu a commencé finalement à envoyer, ils veulent parler. Et qu'est-ce qu'il arrive? Des tornades sur tornades. Il arrive des astres sur des astres. La ville de New Orleans était complètement inondée, horriblement. Après cela, il y avait les tours à New York détruites. Après cela, il y avait donc Il y avait maintenant tout ce pétrole là qui coule. On ne sait jamais comment ils vont sortir de cela. Et ça continue et ça continue. Fléau sur fléau. Je te parle, dit Dieu. Il parle aux nations. Et il les appelle. Revenez à moi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de plus en plus dans le mal. De plus en plus, ils refusent. Dans les facultés, on enseigne à haïr Dieu, de l'oublier, de le mettre de côté. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La France ne sera pas épargnée non plus. Mais passons des pays et arrivons aux chrétiens. Vous savez que le christianisme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et les églises où on prêche vraiment Jésus-Christ, où on appelle les gens à venir et accepter Christ, sont de moins en moins nombreuses. Et le christianisme, Dieu est en train de parler maintenant. Reviens à moi. Réveille-toi, toi qui dors. Ça, c'est le message que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'on dit? Malgré tout cela, ils ne sont pas revenus à Dieu. Je ne sais pas, même des églises locales, Dieu peut leur parler par une chose ou par une autre, essayant de les réveiller. S'ils ne se réveillent pas, Dieu dit aussi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais quand on voit toutes ces choses, c'est surtout à l'individu. Je suis persuadé que l'individu est marqué ici. Quand Amos a parlé, Dieu a parlé par sa bouche à chaque individu en disant « Repens-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et pourquoi? Pourquoi est-il dit « Prépare-toi » Parce que l'homme n'est pas prêt. Par lui-même, il n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Vous vous rendez compte ce que chacun fait? On pense qu'on est bien. Et on dit, bon, je vais essayer d'effacer les malheurs que j'ai faits en faisant de bonnes œuvres. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que nos bonnes œuvres sont comme des chiffons souillés et que chaque homme est devant Dieu tout à fait coupable, qui ne peut pas voir Dieu face à face, qui n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Et donc, de ce fait, l'homme est sous la condamnation de Dieu, non pas parce qu'il a fait de grandes choses, mais parce qu'il est pécheur depuis sa naissance, coupable. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que tu ne sais pas quand ça sera la fin. Il y a une autre raison, c'est que personne d'autre ne peut faire à ta place. Quand il dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est que tes parents ne peuvent pas le faire pour toi. C'est que le pasteur ne peut pas le faire pour toi. Combien de fois, quand je suis devant des églises, des foules surtout, dehors et dedans, et je prêche, et je donne l'appel, j'aimerais m'avancer pour chacun, pour recevoir le Seigneur, et je ne peux pas le faire, parce que c'est une chose que chacun doit faire. On n'hérite pas la vie éternelle parce que les parents sont sauvés. Les parents ne n'héritent pas le salut parce que leurs enfants sont sauvés non plus. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça veut dire chacun est responsable pour soi-même. Oh, combien de fois les parents ont échoué. Leur vie était mauvais exemple. Et les enfants, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent ça comme un prétexte pour ne pas se convertir eux-mêmes. « Oh, mes parents, ils sont comme ceci, comme cela. » Mais vous savez, on est responsable pour soi-même. On ne peut pas dire à Dieu, « Mes parents !» Dieu va dire, « Et toi, qu'est-ce que toi tu as fait ?» Chacun doit le faire lui-même, sans exception aucune. Et puis, il y a une troisième raison que Dieu dit cela. C'est parce qu'on ne sait pas quand on va quitter ce monde. On est sûr que ça va durer longtemps, bien sûr. Personne ne pense qu'il va mourir demain. J'ai J'étais frappé ces 12 jours-ci par les accidents qui se sont arrivés. Vous avez lu celui-là de ces enfants-là qui attendaient le bus le matin. Il y en avait un qui reculait un petit peu, plus dans la rue que les autres. Il était en train de parler. Une voiture, conduite par quelqu'un qui a trop bu, a fauché ce garçon. Il était tué sur le coup. Mais il n'attendait pas à mourir à ce moment-là. Vous savez, on dit toujours, ça arrive aux autres. Et tu sais, vous savez que cet enfant pensait la même chose. Si jamais quelqu'un allait mourir, c'est quelqu'un d'autre. On ne pense jamais que c'est soi-même qui va mourir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a cet homme-là qui tuait tout le monde. Vous l'avez vu, il y avait une dame qui traversait le pont. Il est venu derrière, il a tiré dans son dos, il est tombé morte. Mais elle ne pensait pas du tout qu'elle allait mourir sur le coup, ce jour-là. On ne sait pas quand on va mourir. C'est pour cela que Dieu dit « prépare-toi ». Parce que tout d'un coup, on peut être dans l'éternité. Dieu nous parle, il essaie de nous préparer pour ce jour-là, pour qu'on aille au ciel. Mais si on refuse, c'est trop tard. Et comment est-ce qu'on peut se préparer? Que faut-il faire réellement pour être sauvé et le savoir? La première chose, c'est le désir d'avoir une vie changée. On peut dire, je regrette ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne mes péchés, parce que chacun de nous a fait des péchés. Et quand j'ai quelqu'un qui vient avec moi, je dis, voilà, il faut demander pardon des péchés. Mais il faut aller plus loin que cela. Il faut demander, est-ce que vous voulez que Dieu change votre vie? Que vous viviez une autre vie, une vie transformée? Parce qu'on ne veut pas toujours quitter les péchés dans lesquels on se trouve. On aime la vie dans laquelle on est. On ne veut pas avoir une autre vie. Alors on n'est pas prêt. On commence par la repentance. Et la repentance, c'est « je ne veux plus continuer comme ça. J'aimerais avoir une autre vie. J'aimerais avoir une vie qui me plaît, où je suis vraiment heureuse, où je n'ai pas toujours la culpabilité. Tu as fait mal, tu as fait mal, tu as fait mal. » On aimerait vivre au-dessus de tout cela, être totalement changé. Mais il faut vraiment passer par là. Quand on veut vraiment avoir la vie changée, Dieu est prêt à nous sauver. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est accepter le cadeau. Vous savez que le pire des péchés, qui est dans la Bible, mentionné en Jean 3, 18, le pire de tous les péchés, c'est refuser le cadeau de Dieu. Vous dites, mais pourquoi? C'est pire que le meurtre, l'adultère et tout le reste. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvé. Il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix. Il a payé pour tous nos péchés. Et puis il dit, le pardon de tes péchés, c'est un cadeau. Et si on refuse cela en disant non, je vais essayer de mériter le salut, on essaie d'acheter son salut avec des chiffons souillés. Quand je vois ce verset qui dit « Nos bonnes œuvres sont comme les chiffons souillés », quelles sont nos mauvaises œuvres? Est-ce qu'on peut effacer des mauvaises œuvres avec des bonnes œuvres comme des chiffons souillés? La réponse est non. Il faut comprendre que « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ça veut dire mettre toute sa confiance en lui. Ça veut dire de compter sur lui totalement. C'est comme quelqu'un qui est dans une fenêtre, et ça s'est arrivé, je connais le cas. Il y avait une dame qui était là, et le bâtiment était enflammé. Et les pompiers étaient en bas. Ils ont dit, sautez, on est là. Elle a dit, non, j'ai peur. Mais ayez confiance. Ayez confiance, on vous attrapera. Elle a dit, non, je ne peux pas. Elle est restée là parce qu'elle ne voulait pas avoir confiance et se brûler vif dans le bâtiment. Confiance, ça veut dire, jette-toi. Christ est là. Et quand on se jette dans ses bras, quand on compte que sur lui de nous sauver, pas sur nous-mêmes, C'est à ce moment que quelque chose arrive et on est sauvé. Et la troisième chose, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, ça ne suffit pas de dire je crois. Il faut confesser aussi. Il faut le dire aux autres. Et en plus de ça, il faut prendre position d'une telle façon. Et la façon la plus merveilleuse, c'est le baptême. Et quand on descend sous les eaux, on dit je meurs à ma vie passée. Je meurs à mes péchés. Et quand on est ressuscité, quand on sort de l'eau, c'est quand on veut vivre une nouvelle vie avec Christ. C'est ça, les trois choses. Mais il reste encore une question, mais quand est-ce que je dois accepter? Vous savez que Dieu n'a qu'un seul mot dans sa bouche, aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, et maintenant, c'est le moment favorable. Demain, on n'est pas sûr de demain. Vous savez que les événements coulent vite maintenant. On est très proche de la fin. Et Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu es le seul qui peut le faire, mais tu peux le faire. Il s'agit de sauter, de croire de tout votre cœur en Christ, de mettre toute votre confiance en lui. Il vous sauvera dans un instant et vous aurez la vie éternelle et vous serez prête. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que les jours passent vite et je le remarque. Qu'est-ce que les jours passent vite? Il ne nous reste pas beaucoup. Mon désir, c'est que beaucoup de gens acceptent le Seigneur. Moi, je reste à votre disposition, bien sûr. À la fin de la réunion, si quelqu'un veut me voir, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes troublé, si vous voulez aller plus loin, alors je reste à votre disposition. Venez me voir, je serai là. Nous allons prier. Seigneur, je te prie maintenant de prendre ces quelques mots. Et comme tu as parlé aux gens autrefois, je te prie que tu parles de nouveau, que les gens se tournent vers toi. Seigneur, je te prie que s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas tout à fait dans la bergerie, tout à fait prêt, qu'il t'accepte même ce soir. Seigneur, nous comptons sur toi de faire de grandes choses à Paris. Seigneur, nous savons que notre temps est court. Nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'âmes ici à Paris qui ne te connaissent pas. Et je te prie que tu nous touches en premier lieu. Réveille ton Église. Réveille-nous. Et fais en sorte, Seigneur, que nous soyons des flambeaux dans cette vie. Que chacun de nous ait la joie d'amener une âme à Christ. Que nous vivions tellement près de toi que ça donne envie aux autres d'être comme nous. Que nous soyons des échantillons du ciel, comme des anges au milieu des hommes. Seigneur, sois avec nous maintenant. Bénis le restant de cette soirée. Et s'il y a quelqu'un qui doit se donner à toi, qu'il le fasse maintenant, qu'il saute dans tes bras et qu'il soit sauvé.